Radio G 101.5 FM.
Mission Quasar on the Air du centre LGBTI+ d'Angers. L'association Quasar avec un Z comme Zorro. Ce soir, Quasar on the Air retrouve sa configuration d'antan. Arnaud est là. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Anne, bonsoir à toutes et tous.
Et Mohamed aussi. Bonsoir Mohamed.
Bonsoir Anne, bonsoir à toutes et tous.
Alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir ?
Moi, je vais parler d'élections. Alors, comme c'est pas vraiment le bon moment sur les ondes d'une radio, vous le savez, hein, c'est la trêve des confiseurs, le CSA nous l'interdit. On va parler d'élections passées ou à l'étranger.
Parfait. Et toi, Mohamed, je crois savoir que tu vas nous faire une chronique diverse.
Justement, moi, je vais vous parler un peu de la Mauritanie, et de l'Irlande du Nord et un peu de cinéma aussi.
Eh bien, c'est parfait tout ça. On démarre sur les chapeaux de roue. Arnaud, quelles sont les nouvelles ?
Alors Arnaud, tu souhaites commencer par nous donner des nouvelles de Mamie Zinzin ?
Oui, Mamie Zinzin, exactement, Mohamed, puisque je vais vous parler de Christine Boutin, l'ancienne ministre de Sarkozy et députée des Yvelines jusqu'en 2017. Non, elle n'a pas recommencé à annoncer le décès de quelqu'un qui n'est pas mort, elle a fait pire. Elle doit d'ailleurs se souvenir, avec beaucoup de nostalgie pour elle certainement, qu'à l'arrivée du sida, certains appelaient cette maladie peste rose, nous en faisant porter la responsabilité et laissant entendre que nous étions les responsables d'une épidémie qui annonçait la fin de notre civilisation.
Et pourquoi Arnaud, tu nous rappelles ces moments douloureux ?
Eh bien Mohamed, parce qu'aujourd'hui, Christine Boutin déclare que nous serions responsables du coronavirus. Vous le savez, c'est cette épidémie qui a fait plus d'un millier de morts en Chine et menace la planète. Comme vous et moi, Christine s'en inquiète. En revanche, avec elle, pas besoin de science ni de chercheurs pour connaître la souche, l'origine de ce terrible virus. Elle se fout pas mal du pangolin ou de la chauve-souris. Elle n'a pas un mot pour les pauvres victimes, mais elle annonce sur son compte Twitter, je la cite, « Le coronavirus, 8e plaie d'Égypte. Il faut dire que quelque chose ne tourne plus très rond. Notre problème serait-il de laisser penser qu'un père n'est pas obligatoirement un mâle ?» Fin de citation. Et oui, Nous sommes donc responsables du coronavirus. Alors si quelqu'un a le 06 de Christine, dites-lui que la PMA n'existe pas en Chine et il faudrait vraiment que son Dieu soit vicieux pour commencer par s'attaquer à ce pays alors qu'il aurait pu commencer par les Yvelines. Et puis c'est surtout l'occasion de vous rappeler que ces gens-là, même avec un pied dans la tombe, peuvent encore nous faire du mal malgré tout. Et les crises que nous vivons, le populisme qui monte et une épidémie qui nous menace pourraient bien, par la volonté de ces fous de Dieu, faire de nous l'origine de tous les malheurs et être encore l'objet de toutes les persécutions. Rappelez-vous qu'au moment du Pax, elle était en tête des manifestations d'opposants qui criaient « les PD au bûcher ». Alors restons vigilants, car nous pourrions bien vite redevenir des sorcières.
Sans transition, tu nous amènes maintenant en Guinée, pays que je connais bien.
Oui, Mohamed, pour parler de Sanusi Ndiaye, qui a été torturé et persécuté dans son pays en raison de son homosexualité. Eh bien, Sanusi a été reconduit en Guinée après avoir été détenu au centre de rétention administrative de Nîmes pendant sa procédure de demande d'asile. Yves Carrel du réseau Éducation sans frontières a dénoncé un empressement acharné de la préfecture de Nîmes alors que Sanusi n'avait pas épuisé tous ses recours et qu'un appel était encore possible. Il devait passer devant le juge des libertés le lendemain. De son côté, l'association pour la promotion des travailleurs immigrants a déclaré qu'aujourd'hui il est en danger de mort, mais le préfet n'en a cure, c'est loin, c'est un étranger, c'est un homosexuel, la roue tourne, la vie ne vaut rien pour certains. Ses soutiens, et parmi eux SOS Homophobie ou Aide, craignent en effet que Sanusi ne subisse des représailles, y compris de sa famille ou de son entourage. Et c'est encore une fois la décision de l'OFPRA qui est contestée. Encore un demandeur qui n'a pas pu convaincre un officier de son homosexualité ou de sa bisexualité, parce que comme le dénonce aussi Elodie Atia de l'association Aide, interrogée par Midi Libre, il y a encore plus de restrictions au droit d'asile pour les personnes LGBT. Cela touche à l'intime et en plus à l'orientation sexuelle qui est systématiquement questionnée, remise en doute. Alors que l'OFRA continue d'affirmer qu'un demandeur d'asile n'a pas approuvé son orientation sexuelle. À Quasar, nous sommes bien placés pour savoir que ce n'est pas vrai. L'association est habilitée par l'OFRA pour accompagner des demandeurs et demandeuses d'asile. Nous sommes donc témoins de ces entretiens. Dans tous les rejets de demandes d'asile liés à des craintes ou des persécutions en raison de l'orientation sexuelle, cette dernière est toujours contestée. Et je parle bien de sexualité, l'OFRA n'ayant pas encore intégré la notion d'orientation affective. Donc rien ne s'arrange en 2020 comme sur ces dernières années pour les LGBTI+, étrangers en quête d'un refuge et d'une vie en sécurité.
Je profite de cette occasion, Arnaud, pour communiquer rapidement le bilan de l'année 2019 pour le groupe droit d'asile, droit des étrangers LGBTI+, pardon, de Quasar. Les chiffres significatifs pour prouver ce que tu viens de dire, Arnaud, même si on y reviendra plus longuement cette année, j'en suis sûr. Au 31 décembre 2019, 143 demandeuses et demandeurs d'asile avaient été accompagnés dans leur procédure par l'association au cours de l'année. Parmi elles, 46 personnes sont arrivées au terme de leur procédure en 2019 et 39, soit 85% d'entre elles, avec obtention du statut de réfugié. Ce statut a été délivré par l'OFRA pour seulement 4 d'entre elles, alors que la Cour national du droit d'asile auprès de laquelle un recours de la décision de l'OFPRA est contesté, a accordé ce statut à 35 demandeuses et demandeurs d'asile, assistés par Quasar toujours en 2019. On ne peut que contester la différence de traitement entre une administration sous tutelle du ministère de l'Intérieur et une cour de justice encore indépendante dans notre pays.
Merci Mohamed pour confirmer ce constat avec ces chiffres qui sont récents pour nous, pour l'association, donc tu le disais au 31 décembre 2019.
Et tu nous parles de médias maintenant avec une campagne publicitaire qui mérite notre attention.
Oui, un peu d'optimisme, ça va nous faire du bien. La chaîne de café mondial Starbucks a dévoilé son nouveau spot publicitaire au début de ce mois en Angleterre et c'est un jeune homme trans qui en est le personnage central. Dans ce spot de 1 minute 30, on suit le parcours de James qui a du mal à imposer son prénom à sa famille et à la société. Alors que tout le monde continue d'utiliser son dead name, Gemma, le seul à ne pas poser de questions, à ne pas juger, à ne pas s'étonner, c'est le serveur du Starbucks Café qui tend à James un gobelet à son vrai nom. Cette publicité très émouvante participe de l'inclusivité dans les médias, de la diversité. J'en avais déjà parlé ici il y a quelques semaines au sujet de Netflix. On peut donc saluer aussi Starbucks car les personnages transgenres sont encore plus rares que les gays ou les lesbiennes dans les films, séries et encore plus dans les publicités. Ajoutons que Starbucks, comme nous le rappelle le magazine Têtu, est connu pour rembourser tous les soins de santé de ses salariés transgenres. De plus, à l'occasion de ce spot, la société a annoncé qu'elle allait verser un minimum de 100 000 livres sterling à Mermaids, une association britannique de soutien aux jeunes LGBT+, et à leurs familles. Pour cette association, c'est une campagne fantastique. Je cite, « Reconnaître à la télévision l'existence des personnes trans va aider beaucoup de gens à se sentir moins isolés et leur faire comprendre qu'ils sont estimés », a déclaré la présidente de l'association, donc Suzy Green. Aux États-Unis, en mai de l'année dernière, la marque américaine de rasoir Gillette avait mis à l'honneur un jeune transgenre aux côtés de son père. Ce dernier montrait à son fils comment se raser. Cette publicité marquante était elle aussi très touchante. Et en France, pouvez-vous me citer, Anne Mohamed, une pub avec un personnage transgenre ?
Moi non, en revanche, je connais une pub très récente et très engagée en faveur des LGBTI+, et c'est la dernière campagne de Coca-Cola en Suisse, si tu te rappelles.
Oui, Mohamed, merci pour cette transition. On reste dans la publicité pour parler de la plus célèbre marque de soda qui a réussi un coup médiatique le 28 janvier dernier à la veille d'un scrutin majeur chez nos voisins helvètes. À la une des principaux titres de presse du pays, sur fond de drapeau arc-en-ciel, on y distingue la célèbre bouteille sur laquelle on peut lire un message en français, en allemand et en italien. Le Coca-Cola est au goût de beaucoup de gens en Suisse, indépendamment de l'âge, du sexe, de la couleur de la peau, de la religion ou de l'orientation sexuelle. La grande diversité qui règne dans ce petit pays exige notre compréhension et notre solidarité à tous. Nous voulons également y contribuer en rapprochant les gens. C'est pourquoi nous nous engageons pour une société variée et sans discrimination, pour une Suisse du vivre ensemble. Alors pourquoi cette campagne ? Eh bien parce que le 9 février, les Suisses devaient se prononcer pour étendre ou non la norme pénale contre la discrimination raciale qui existe depuis 1995, donc l'étendre à l'homophobie. Déposée en 2013 par le plus jeune député de l'Assemblée fédérale, le socialiste Matthias Reinhardt, cette proposition tend à rapprocher la législation suisse du code pénal français notamment, qui criminalise la discrimination en raison de l'orientation sexuelle depuis 1985 et les injures homophobes depuis 2004. Sauf que l'Union démocratique fédérale de Suisse, partie de la droite chrétienne qui revendique parmi ses valeurs la crainte de Dieu, a lancé un référendum pour s'y opposer. Les Suisses devaient donc se prononcer le dimanche 9 février sur cette question. Une initiative de Coca-Cola que nous ne pouvons que saluer, sauf que la méthode de la multinationale américaine est quand même contestable. De nombreuses personnalités, y compris parmi celles qui soutiennent la proposition de loi, ont regretté qu'une marque utilise sa puissance financière pour influencer un vote sur un sujet de société. Coca-Cola a donc été obligé de préciser sa position par un communiqué qui dit ceci. Si ce manifeste est publié en ce moment, même avec une grande visibilité publique et sur fond de drapeau arc-en-ciel, ce n'est pas un hasard. Le 9 février, les citoyens voteront sur une question importante concernant le vivre ensemble avec l'extension de la norme pénale antiraciste. Toutefois, Coca-Cola Suisse souligne qu'elle ne veut pas que cette campagne soit comprise comme une revendication politique, voire comme une recommandation de vote au public ou à ses 800 collaborateurs, mais comme une initiative par laquelle l'entreprise souhaite exprimer son engagement pour une Suisse haute en couleur. Fin du communiqué. Qu'aurions-nous dit ? Tout de même, si la marque Barilla était venue s'afficher partout sur les murs de nos rues pour nous faire part de son opposition à la PMA il y a quelques semaines sous couvert de la fameuse protection de la famille traditionnelle. Je terminerai quand même cette info par un simple « Always Coca-Cola ».
Et alors Arnaud, qu'en est-il du résultat de cette votation ?
Eh bien Mohamed, les appels à la haine et les actes discriminatoires basés sur l'orientation sexuelle sont désormais sanctionnés en Suisse à l'identique des discriminations fondées sur l'appartenance raciale, ethnique ou religieuse. Dimanche dernier, les Suisses ont approuvé par référendum à 63,1%, j'ai bien dit 63,1%, cette norme anti-homophobie, avec quelques réserves tout de même. Elle ne devrait pas s'appliquer dans le cadre familial ou amical, ce que l'on peut bien évidemment regretter. Le texte prévoit des amendes ou des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison. Le député socialiste Matthias Reinhardt, à l'origine de la réforme, comme je vous le disais à l'instant, a réagi en indiquant qu'il s'agit là d'un signal magnifique et d'ajouter « la haine et la discrimination n'ont pas leur place dans notre pays ». Manon Schick, directrice suisse d'Amnesty International, a souligné, elle, l'importance de prendre ce type de mesures dans un contexte européen où les propos qui appellent à la haine homophobe, raciste contre certaines religions ainsi que les agressions sont en hausse. Elle dit « lorsque l'on tolère un discours de haine, certaines personnes se sentent légitimées à en agresser physiquement d'autres sur la base d'une différence ». Déplore-t-elle. Une déception de taille quand même, cette nouvelle loi exclut le critère de l'identité de genre, considéré comme trop flou selon le collège gouvernemental et qui pourrait conduire à une interprétation extensive et s'avérer problématique du point de vue de la prévisibilité du droit pénal, comme le rapporte le site SOS Homophobie.
Alors Mohamed...
Mohamed, c'est à toi.
C'est à ton tour. Parle-nous, Mohamed, de diverses choses.
Oui, de quoi tu vas nous parler, Mohamed, ce soir, on t'écoute.
Alors, je vais parler de plusieurs volets, notamment un peu d'infos, un peu du monde, mais je préfère commencer un peu par la Mauritanie. 10 jeunes ont été placés en détention provisoire après avoir diffusé des images du premier mariage gay du pays. La Mauritanie pénalise le comportement homosexuel. Le parquet de Nouakchott, la capitale, a placé en détention provisoire 10 jeunes inculpés dans l'acte contraire à la morale, comme ils le disent, après la diffusion d'images d'une cérémonie présentée comme le premier mariage gay de Mauritanie, a-t-on appris le 28 janvier de sources judiciaires. Je cite, le parquet a envoyé lundi soir les jeunes délinquants homosexuels en prison en attendant leur jugement pour acte contraire à la morale, commission de faits interdits par Allah et publication d'une cérémonie de débauche, a expliqué à l'AFP. Cette source, la date de cette source est déjà inconnue. La justice mauritanienne, je m'excuse, a condamné 10 sur 8 sur les 10 arrêtés au début. Voilà, de 2 ans de prison ferme pour acte contraire à la morale, comme je l'ai cité tout de suite. Après la diffusion de cette vidéo, en fait. Donc, une vidéo maintenant qui est devenue virale en Mauritanie et dans les pays voisins à mi-janvier et a présenté une fête dans un restaurant de Nouakchott comme le premier mariage gay de cette République islamique d'Afrique du Nord, du Nord-Ouest, interdisant les comportements homosexuels.
On peut la voir où cette vidéo, excuse-moi?
Forcément sur le net et sur Twitter, parce que ça a beaucoup fait parler.
On cherche, il y a des mots-clés, quelque chose qu'on pourrait trouver.
Ouais, justement, à travers les recherches que j'ai faites, je vous file ça après pour pouvoir.
Ok, bah, au moment de l'agenda, alors ça va aller.
D'accord, au niveau de l'agenda,
oui, ça
parce
marche.
Que j'ai la source, j'ai les sources et tout.
Et de quoi tu vas nous parler maintenant?
Alors là, on va parler un peu de l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord célèbre le premier mariage d'un couple de même sexe. Donc je cite, nous ne voulons pas entrer dans l'histoire, nous sommes juste tombées amoureuses. Des lesbiennes deviennent mardi 11 février le premier couple de même sexe à se marier en Irlande du Nord, grâce au changement de loi effectué l'été dernier. Robin Pioppel, c'est de l'anglais, je m'excuse, 26 ans, et Charney Edwards, 27 ans, se marient mardi 11 février à 14h dans la ville de Carrickfergus, à côté de Belfast. Alors que la nouvelle législation autorisant le mariage entre personnes de même sexe est entrée en vigueur lundi 10 février 2020, les futures épouses ont tenu à remercier le mouvement Love Equality, une campagne menée par Amnesty International et d'autres associations qui a, selon elles, ouvert la voie à ce changement. Si cette campagne se termine avec Charny et moi qui nous nous disons oui, elle a commencé avec des gens qui ont dit non à l'inégalité, a salué Madame Pioppel dans une déclaration publiée par Love Equality. Nous sommes très reconnaissants aux milliers de personnes qui ont défilé pour nos libertés. Nous sommes très reconnaissantes aux milliers de personnes qui ont défilé pour nos libertés, à Love Equality et aux responsables politiques qui ont voté pour changer la loi, a ajouté sa future femme. Sans vous, notre mariage n'aurait pas été possible. Nous vous en serons éternellement reconnaissants. Les députés britanniques du Parlement londonien de Westminster, ont adopté en juillet une loi autorisant les mariages et pactes civils entre personnes de même sexe en Irlande du Nord, alors que le gouvernement décentralisé de cette province britannique était suspendu depuis 3 ans en proie à la paralysie après un scandale politico-financier. Un groupe de députés nord-irlandais a bien tenté de s'opposer à cette mesure permettant à la province conservatrice de s'aligner sur le reste du Royaume-Uni, qui autorise ces unions depuis 2014. Mais ils ont été déboutés en octobre. Depuis, l'Irlande du Nord a retrouvé un gouvernement et Londres a passé des mois à élaborer le contenu de cette nouvelle loi autorisant le premier mariage entre personnes de même sexe à avoir lieu cette semaine.
Ben voilà une très bonne nouvelle, en tout cas, Mohamed. Et je crois maintenant que tu vas nous parler un peu de ciné.
Oui, justement, maintenant, on va parler un peu de cinéma. La colère que j'avais quant au silence sur l'homosexualité m'a donné envie de faire quelque chose. Je viens de citer Dark Jazdani, réalisateur de Toutes les vies de Cousine, toute la vie de Cousine, c'est déjà un documentaire qu'il a réalisé, dont je vais vous parler tout de suite, justement. Ce cinéaste, Diako, est retourné au Kurdistan ukrainien pour filmer...
Irakien
voilà, je m'excuse, irakien, pour filmer Cousine, jeune gay, qui cherche à s'émanciper dans un contexte d'homophobie poussée à son maximum. Un documentaire sensible, drôle parfois et passionnant. Réfugié politique en France, le cinéaste Diako est retourné au Kyrgyzstan ukrainien, je m'excuse, pour suivre Cousine, jeune homosexuel qui cherche à s'émanciper dans un contexte d'homophobie à son maximum. À quelques kilomètres des premières bases de Daesh, dans une société qui entend soigner les homosexuels par la religion et érige la pédophilie en passage obligé, le réalisateur parvient à filmer avant tout les relations humaines, des échanges instructifs, tout en n'oubliant jamais une dose salvatrice d'humour. Ce documentaire est sensible et doublement incarné par son auteur et son personnage.
Allez, donc à voir très prochainement. Ouais. Et donc maintenant, on va passer la parole à Anne, qui elle aussi a des nouvelles à nous donner. On t'écoute, Anne.
Eh bien oui, j'ai des nouvelles à vous donner. En fait, on parlait du Royaume-Uni, de l'Irlande, et ça tombe super bien. Ouais. Parce que la question... Est-ce qu'il faut s'inquiéter des effets du Brexit sur les droits des personnes LGBTI au Royaume-Uni et en Europe ? En fait, le 31 janvier à minuit, au cas où quelqu'un ne l'aurait pas remarqué, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne plus de 3 ans après le vote en faveur du Brexit. Avec quelles conséquences pour les personnes LGBTI ? Alors, je m'installe. Les négociations ne font pourtant que commencer entre l'Europe et la Grande-Bretagne afin de mettre en place ce que seront leurs relations futures. Depuis 1973, il faut remonter au calendrier grec, et son entrée dans l'Union, le Royaume-Uni a connu de nombreuses avancées en matière de droits des personnes LGBT+. Beaucoup sont le fruit de réformes décidées par le Parlement britannique, mais dans une étude menée par l'Université de Bristol, les auteurs et autrices affirment que grâce à l'Union européenne, la marche britannique vers l'égalité a été renforcée. Je cite « La réalité, c'est que le cheminement du Royaume-Uni vers la pleine égalité des personnes LGBT n'aurait pas pu se faire sans ce que nous appelons maintenant l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH. » Cela signifie-t-il que quitter l'UE va avoir un impact sur les garanties des droits LGBT ? Rien n'est moins sûr. On imagine en effet assez mal un gouvernement revenir sur des droits largement approuvés par l'opinion publique. Quand il était maire de Londres, le Premier ministre Boris Johnson a participé à la Pride March. Pourtant, certains et certaines s'inquiètent, car bon nombre de politiciens et de politiciennes pro-Brexit sont aussi très conservateurs. Avec parfois des prises de position... peu gay-friendly, c'est moins compliqué à dire. Et immédiatement après le vote du Brexit, en juin 2016, les actes LGBT-phobes ont augmenté au Royaume-Uni. En juillet, août et septembre de 2016, les actes haineux contre les personnes LGBT+, ont augmenté de 147% par rapport à la même période en 2015. De plus, et ce dès janvier 2018, les conservateurs au Parlement ont voté pour que la charte des droits fondamentaux appliquée en Europe ne le soit plus une fois que le Royaume-Uni serait sorti. C'est ce document qui interdit toute discrimination liée à l'orientation sexuelle. La plupart des lois vers l'égalité de l'Union européenne sont maintenant entrées dans la législation britannique et ne devraient plus en sortir. Cependant, on peut raisonnablement s'inquiéter sur certains aspects, comme le fait le docteur Peter Dunne dans un récent article sur les conséquences du Brexit sur les personnes LGBT+. Il cite en particulier les droits des défunts et défuntes dans un couple de même sexe en cas de décès. Mais aussi les droits des couples de même sexe en termes de séjour. Si l'on regarde du côté de l'Europe, maintenant, on peut aussi penser que globalement, la Grande-Bretagne était du côté des progressistes, en matière des droits LGBTI. Ne risque-t-on pas de voir les pays plus rétrogrades, comme par exemple la Pologne, qui ont mis à leur agenda national la remise en cause des droits des personnes LGBTI ? Donc, le 31 à minuit, les Brexiteurs étaient à la fête sur ce que le quotidien de gauche The Guardian qualifiait le 31 au matin de plus grand pari depuis une génération. L'Europe et le Royaume-Uni ont cependant encore du pain sur la planche. Il faudra sans doute attendre de longs mois avant de voir si, concernant les droits LGBTI+, le Leave ne devient pas aussi un gated. Bon, bah, donc à surveiller comme tout le reste, hein, comme disait Arnaud tout à l'heure.
Exactement, oui.
On va parler, je vais vous parler un peu plus longuement de Peter Buttigieg. Légèrement, toi tu vas en parler un petit peu tout à l'heure, je crois.
Bah, dans le cadre des élections, oui, en effet.
Ouais, c'est ça.
On va saluer.
Donc, qui est Peter Buttigieg ? Arnaud, tu le sais, toi ?
Un petit peu, oui.
Un petit peu. Alors. Eh bien, Arnaud Buttigieg, Arnaud Buttigieg, qui va se faire élire bientôt aux États-Unis, mais oui. Peter, donc, Buttigieg, ces dernières années, on a noté que de plus en plus de politiciens et de politiciennes LGBT+, ont investi le champ politique. Tu vas nous en parler un petit peu, je crois. Et se sont présentés IES pour des hautes fonctions électives, et pas uniquement dans les pays occidentaux dits avancés, du point de vue des droits LGBT, bien sûr. Un des exemples les plus frappants est celui de la première ministre serbe Ana Brnabić. Pardon, c'est du serbe. Ouvertement lesbienne et en couple. Cependant, son action sur les questions LGBT+, n'est pas franchement suffisante, si l'on en croit les activistes sur place. Mais bon, parlons donc de Peter. Lors du premier caucus des primaires démocrates en Iowa, sachez que les Américains donc votent pour les candidats, et en fait, ils votent pour des délégués. Alors, on peut avoir plus de votes que quelqu'un, mais moins de délégués, et donc on n'a pas gagné quand même. C'est un peu compliqué par rapport à nous, enfin, vu de chez nous. Mais bon, toujours est-il que Pete Buttigieg, totalement inconnu du grand public il y a encore un an, était quand même réussi à arriver en tête du vote des délégués.
Même si ça a été très contesté, hein, et il y est arrivé de justesse.
Vraiment de justesse, c'est ça, parce que c'est resté un véritable suspense jusqu'au bout.
On pourrait dire, plus familièrement, un véritable bordel pour ce premier caucus aux États-Unis, où vraiment, visiblement, l'organisation était quand même déplorable.
Oui, mais bon, enfin, c'est lui qui en est sorti vainqueur, hein, de peu, voilà. Certes.
Ils ont mis du temps à le confirmer, mais ça a été confirmé.
En fait, leur système ne comptait pas bien. Enfin, ça a été un peu compliqué, mais au terme de cette attente intenable qui a passionné plein de gens, comme toutes les attentes intenables, eh bien, c'est Peter qui a gagné. Ces derniers jours, donc, sur les réseaux sociaux, on voit des messages critiquant son positionnement jugé trop peu progressiste. Mais l'essentiel est-il là ? Envisager que le candidat démocrate des États-Unis, qui reste la première puissance du monde, les États-Unis, et qui influence donc le cours des affaires du monde, puisse être gay ? N'est-ce pas déjà le signe que les choses ont changé ? Et surtout, que dit cette visibilité sur l'importance du « role model » ? Car nous avons tous besoin de modèles. On sait que l'expérience de la découverte de son homosexualité, bisexualité ou transidentité se fait que rarement dans un environnement extrêmement friendly et très joyeux. Il n'est plus à démontrer l'importance pour les adolescents et adolescentes LGBT+, de voir d'autres personnes comme elles. Prendre la parole en tant que LGBT, être visible au sein de son organisation ou de son entreprise, permet de faire reculer les stéréotypes, se lever et dire « voilà ce que je suis ». Faire son coming out, quand et seulement quand on estime que c'est possible et en sécurité, pour aussi aider les autres LGBT+ à s'épanouir, demeure la meilleure façon de faire reculer les discriminations. Une étude de 2012 sur ces ados américains et américaines montrait que sur le terrain, l'inaccessibilité des role models donc signifie une plus grande détresse psychologique. Le rôle joué par le président des États-Unis a d'énormes répercussions dans ce pays, mais bien au-delà. Depuis son élection à la présidence des États-Unis, Trump, par exemple, a mis en place de nombreuses mesures contre les personnes LGBT+. Encourage celles et ceux qui militent contre l'avortement, nomme à tour de bras des juges ultra-conservateurs. C'est tout le mouvement conservateur le plus rétrograde qui s'en trouve légitimé aux États-Unis. et dans le reste du monde occidental. La route est encore longue pour les démocrates américains avant de connaître le candidat à la Maison Blanche en juillet prochain. Mais d'ores et déjà, et malgré toutes les réserves que l'on peut avoir sur son programme, le signal envoyé par Pete Buttigieg est plus que significatif quand même.
En effet, Anne, j'y reviendrai tout à l'heure, mais pour illustrer un peu mon propos. Et alors, tu disais donc que Trump encourage les anti-avortements, mais il a fait bien pire, on va dire bien pire, c'est que pour la première fois, un président des États-Unis est allé manifester. Voilà, et donc contre l'avortement, je crois que c'était la semaine dernière.
Oui, c'est la semaine dernière.
Donc franchement, on franchit toujours un cap avec Trump, c'est formidable. Chaque semaine nous réserve une surprise, mais elle n'est jamais très bonne.
Ouais, généralement, c'est pas fameux en tout cas. Alors ensuite, eh bien, une dernière petite news pour le plaisir des news. Allez,
oui.
j'ai choisi, parce que j'ai plus le temps, donc j'ai choisi. La première Muslim Pride britannique aura lieu le 11 avril à Londres. Qu'est-ce que c'est qu'une Muslim Pride ? Eh bien, c'est simple, en fait. Donc, selon le média Pink News, l'association musulmane Iman vient de fixer la date du tout premier festival LGBT+, pour les personnes LGBT+, musulmanes.
Yes.
C'est une première mondiale. Le festival Muslim Pride se tiendra à Londres le samedi donc 11 avril prochain. Le lieu n'a pas encore été dévoilé par les organisateurs. L'annonce a été faite sur les réseaux sociaux à partir du 11 février dernier. Donc c'est tout chaud.
Ouais.
Donc si vous voulez aller voir ça, vous allez sur Twitter et twitter.com/Iman. I-M-A-A. N. D'accord,
d'accord.
Cherchez ça et vous trouvez. Ça y est, nous avons fixé la date du premier événement Muslim Pride. Les billets seront en vente dans 2 semaines. Oui, parce qu'évidemment, ils ne font pas ça petit. Hein. Ils font une Pride et puis beaucoup de spectacles, etc., etc. La Muslim Pride aura pour but de réunir les personnes confrontées à des abus homophobes, transphobes et islamophobes. Ça sera l'occasion pour eux de se retrouver dans un endroit sans jugement et où tout le monde pourra être soi-même. L'association Iman a lancé des appels aux personnes arabophones LGBT+, aux praticiens du bien-être et aux prestataires de services intéressés pour participer à des débats et des tables rondes lors du festival. J'adore cette idée. Voilà, donc, eh bien écoutez, on va donc continuer notre petit bonhomme de chemin. Il est 20h32, vous êtes sur Radio G Angers 101.5 FM et c'est l'émission Quasar on the air. Un peu de musique, car la musique, c'est quelque chose qui est important. Donc, la musique, eh bien, c'est Angèle, ta reine. J'ai écrit sur des sujets qui me paraissaient importants et je suis contente d'avoir été écoutée. Mais ce n'est pas la bonne parole. J'écris sur des choses personnelles. Peu importe que ce soit engagé à la base, ce que j'écris dans mes chansons est un questionnement avant d'être une prise de position. Et voilà donc comment Angèle nous parle de cette chanson « Ta reine », une sorte de petit court-métrage, qui raconte une fille qui est amoureuse d'une fille.
Beau programme, on écoute Angèle.
Hop. Ça a pourvu partir. Il y a des problèmes comme ça des fois, mais c'est sans gravité. On va réussir à faire démarrer le bousin. Parce que moi, je vous le dis, ah non, c'est pas là que ça se passe. Alors, je suis bien sur MP3. Oui, Julien, si tu nous écoutes, je suis bien sur MP3. Alors, pourquoi non ? Pourquoi non ? Eh bien, on va tenter ça et c'est parti !
Mohamed et moi, on peut chanter aussi. Je pense qu'on va faire fuir tout le monde.
Certes. Eh bien, écoutez, je vais chanter avec vous. Ah bah si, ça y est. C'est parti. Allez, c'est reparti. Donc, c'était Ta Reine de Angèle. Et maintenant, tu as quelque chose à nous dire ?
Alors, Arnaud, comme le CSA t'interdit de parler de prochaine élection municipale sur cette antenne, tu as choisi de parler de candidates et candidats LGBTQ+, aux élections passées en France et à l'étranger.
Oui, parce que ces dernières années, nous avons vu émerger de plus en plus de politiciennes et de politiciens LGBT dans le monde pour accéder ou tenter d'accéder aux plus hautes fonctions. Anne nous en a apporté la preuve tout à l'heure avec l'un des candidats aux primaires démocrates des États-Unis. Alors profitons de cette période pour faire un peu d'histoire très contemporaine. En France, tout d'abord, en juin 1997, André Labarrère, maire socialiste de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, a été le premier homme politique d'envergure à faire son coming out. Il était alors âgé de 70 ans et se dévoilait dans un roman qu'il a écrit. Ce roman, c'était Le bal des célibataires. Et qu'a-t-il dit à l'occasion de la sortie de son roman ? J'en ai eu assez de la langue de bois, j'ai voulu aider les jeunes. On peut réussir, on ne peut pas réussir en étant honteux. J'ai dit oui au bonheur, oui à la tendresse, non à l'hypocrisie du milieu politique où il y a beaucoup d'homosexuels. C'était donc ce qu'il confiait à Libération à l'époque. Mais le plus célèbre de nos hommes politiques assumant ouvertement son homosexualité a été Bertrand Delanoë, élu à la mairie de Paris de 1995 à 2001, avec une cote de popularité qui est restée très élevée jusqu'à la fin de son mandat. Son coming out, il l'a fait par devoir de solidarité envers les homos, expliquera-t-il. On peut saluer son courage, car il a tracé un chemin très emprunté aujourd'hui et ça n'a pas été facile. Rappelez-vous comme les humoristes le caricaturaient par des imitations homophobes contre lesquelles il a dû batailler jusqu'en 2013, alors qu'il était retiré de la vie politique depuis bien longtemps. Aujourd'hui, les préjugés dossier ont reculé. Alors merci, monsieur Delanoë, même s'il reste encore du chemin à faire. Il n'empêche que ce n'est pas facile d'assumer son orientation affective et sexuelle si elle diffère de la majorité quand on est un personnage public, et encore plus dès lors que l'on a une ambition politique. Comme je l'entendais encore il y a quelques jours dans la matinale de France Inter, les médias considèrent ces candidats comme des faire-valoir du progressisme des partis. Alors que pourtant, et on peut le regretter, on trouve maintenant beaucoup d'élus LGBT dans des partis conservateurs, voire ultra-conservateurs.
On entend aussi parfois que certains partis veulent surfler sur le mode des LGBTI+, en présentant des candidats gays ou lesbiennes.
C'est vrai que certains continuent de considérer la visibilité des LGBT comme une mode, alors que nous voulons juste notre place dans la société et sommes rassurés de voir parmi les élus une diversité qui ressemble à la société dans laquelle on évolue. Oui, il faut plus de femmes, oui, il faut des candidats et candidates d'origine diverse, oui, il faut des personnes en situation de handicap, oui, il faut des LGBT. Ne serait-ce pas là la meilleure façon de faire reculer les discriminations? Et non, assumer ce que l'on est quand on veut recueillir l'approbation du plus grand nombre, c'est juste une preuve d'honnêteté dont beaucoup devraient s'inspirer, car on le sait, ces élus seront critiqués pour ce qu'ils font, mais dès lors qu'ils sont différents, ils seront critiqués aussi pour ce qu'ils sont. Et en la matière, les LGBT ont souvent droit à toutes les outrances.
Oui Arnaud, mais une différence ne doit pas être forcément une qualité, et la seule qu'on puisse mettre en avant quand on se présente à une élection.
Bien sûr, tu as raison Mohamed, ce n'est pas sa différence qui doit faire le candidat. Non, il doit faire avant tout la preuve de ses aptitudes et de ses compétences. Et enfin, ce n'est pas sa particularité qui doit l'animer dans ses fonctions. Ce n'est pas parce qu'un élu est LGBT qu'il doit faire dans le pinkwashing. Ce qu'il faut, c'est que l'on n'ait plus ce sentiment de n'être représenté et gouverné par des gens qui n'ont aucun sens de nos réalités, de notre quotidien. Et ce n'est pas du populisme, c'est juste du bon sens. Un gouvernement, une assemblée de personnes mixtes, variées, diversifiées, doit être plus réceptive et plus à l'écoute de toutes les diversités. Et on peut rajouter, comme tu le disais Anne tout à l'heure, à quel point aussi cette visibilité est importante pour les jeunes aujourd'hui, alors que beaucoup d'entre nous n'avions que Michel Serrault dans La Cage aux Folles comme représentation de l'homosexualité quand nous étions mômes. Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui n'ont pas cette référence, faites un tour sur YouTube pour imaginer notre détresse. D'ailleurs,
attends, il nous a quand même appris à beurrer une biscotte.
Exactement, et puis il nous a fait beaucoup rire malgré tout. Mais il n'empêche que comme seule référence, c'était plutôt moyen. D'ailleurs, donc comme tu le disais tout à l'heure, Pete, alors moi je vais dire Buttigieg, candidat victorieux du premier caucus de la primaire démocrate aux États-Unis, disait donc lundi 3 février à l'annonce de sa victoire, « Cela prouve, pour un enfant quelque part qui se demande si il, elle ou y'elle a une place dans sa propre famille, que si l'on en croit en soi et en son pays, la réponse est probablement oui. »
C'est qui ce pute Buttigieg, Arnaud ?
Eh bien, Anne nous l'a expliqué tout à l'heure. Vous avez entendu parler de la primaire démocrate aux États-Unis, hein, qui a commencé avec un premier caucus qui s'est déroulé dans l'Iowa, un état très rural. Eh bien, Pete Buttigieg, 38 ans, chrétien, marié à un homme, inconnu il y a un an, ancien agent des renseignements de la marine américaine et ancien Marines en Afghanistan, est arrivé en tête des votes devant Bernie Sanders. Alors, Ouest France s'interroge, qu'est-ce qui lui vaut ces beaux résultats ? Virgule, son homosexualité, point d'interrogation. Eh bien non, il ne néglige pas les droits des minorités, il s'est même engagé à suspendre l'interdiction d'accueillir des personnes transgenres dans l'armée instaurée par Donald Trump, mais pour lui la défense des minorités est un non-thème de campagne. Ce qui semble le préoccuper, ce sont les enjeux climatiques. La primaire est encore plus longue pour les démocrates, et le futur candidat à la Maison-Blanche ne sera connu qu'en juillet prochain. Les sondages nationaux ne lui sont pas vraiment favorable, et il est déjà arrivé que deuxième au caucus de mardi dernier. Donc sachant, comme tu l'as rappelé Anne, que la primaire c'est une élection entre adhérents et sympathisants d'un parti, évidemment on va pas tout de suite miser sur sa victoire aux élections à la présidence des États-Unis. Mais en revanche, que le plus grand pays du monde, avec l'influence qu'on lui connaît, mette en avant un potentiel futur président gay, c'est une première positive qui envoie un signal dans le monde entier, et on ne peut que s'en réjouir, et tant pis si ce Pete Buttigieg manque justement de progressisme.
Éloignons-nous des États-Unis et de la France, si tu veux bien Arnaud. Est-ce que les plus hautes fonctions ont déjà été occupées par des LGBT ailleurs ?
Oui, par exemple, le 30 janvier 2009, Johanna Sigurðardóttir est chargée de former le gouvernement islandais à la suite d'une grave crise économique qui, sous la pression populaire, a entraîné la démission du Premier ministre de l'époque. Elle devient donc la première femme première ministre en Islande, ainsi que la première chef du gouvernement au monde à s'être ouvertement déclarée homosexuelle. Elle ne se représentera pas aux élections législatives de 2013. En 2015, Xavier Bettel, le premier ministre luxembourgeois, devient le seul chef d'État gay du monde. Souvenez-vous de la photo officielle des époux et épouses des chefs d'État au château royal de Laeken en 2017. Eh bien, aux côtés de Melania Trump et Brigitte Macron, on pouvait voir Gauthier d'Estenay, le mari du premier ministre. C'est un pas de plus pour la visibilité des couples homosexuels dans le monde. Un autre premier ministre s'est fait connaître cette même année, mais cette fois en Irlande, Leo Varadkar, à 38 ans. Il est le plus jeune titulaire de cette fonction. Le premier métis et le premier homosexuel à l'exercer en Irlande, mais il refuse explicitement d'être associé à cette image de pionnier. Lui, il a fait son coming out en 2015 alors qu'il était ministre. On ne peut pas cacher aussi qu'il est très 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 à droite. En Croatie, en 2017, donc Anna Nabik, dont tu parlais tout à l'heure et qui est elle aussi très à droite, est désignée et investie présidente du gouvernement. Puis elle devient présidente de la République. Elle est la première femme et la première personne ouvertement homosexuelle à exercer cette fonction. Alors c'est quand même notable parce qu'elle assume pleinement son homosexualité dans un pays où 80% de la population se déclare chrétienne orthodoxe et où les marches des fiertiers sont l'objet de violences, voire d'annulations. Cette nomination a même été perçue par les ONG comme un moment historique. Le 17 septembre 2017, elle participait à la marche des fiertiers de Belgrade, devenant la première chef du gouvernement d'un pays balkanique à se rendre à une telle manifestation. Elle déclare dans le même temps que les droits LGBT ne sont pas sa priorité, car, dit-elle, si l'économie va bien, que la population dispose d'un travail, d'un salaire décent et des perspectives de carrière, elle sera moins intéressée à détester les autres. Fin de citation. Connaissez-vous Mounir Bahatour, candidat à la présidentielle de la Tunisie? L'année dernière, la candidature de cet avocat revendiquant ouvertement son homosexualité avait constitué une première dans l'histoire du pays avant que cette même candidature soit rejetée. L'orientation sexuelle de Mounir Bahatour lui a valu des menaces de mort et 3 mois de prison en 2013, une expérience terrible qui l'a convaincu de créer la première association tunisienne de défense des LGBT un an plus tard. Aujourd'hui, Mounir Bahatour est toujours président de l'association Shams. Très contestée au sein même de la communauté LGBT de Tunisie, cette candidature du Parti libéral a quand même fait date dans l'histoire du pays et surtout dans le monde arabe.
Y a-t-il d'autres personnes dont tu veux nous parler, non ?
Eh bien, pas ce soir, même si j'en ai certainement oublié beaucoup, mais je dois le confesser, en faisant mes recherches pour un article sur un élu LGBT que je trouvais, on proposait 10 articles sur des déclarations homophobes de chefs d'État du monde entier. Ça m'a un petit peu usé. Et aussi, on associe la candidature d'un LGBT comme une mise en avant d'un certain progressisme, alors qu'en faisant mes recherches, je n'ai pu que constater que beaucoup de ces élus ou candidats sont souvent dans des partis conservateurs, voire d'extrême droite. Donc en matière de progressisme, on peut donc faire mieux.
Oui, mais ça, c'est le but de l'agenda homosexuel qui veut mettre la main sur le monde. Ne l'oublions jamais. C'est quand même une parole sûrement vraie, puisque c'est nos ennemis qui le disent. Alors, vous êtes bien sûr Quasar on the Air, c'est Radio G 101.5 FM. Maintenant, nous allons donc faire un petit développement. On s'est dit qu'on se ferait par émission, 2 fois 4 minutes, sauf en cas de dossier, bien sûr, 2 fois 4 minutes d'un petit développement de quelque chose qui nous plaisait. Je crois que Mohamed, t'as un petit quelque chose là-dessus, toi, on m'a dit tout à l'heure.
Un truc vachement léger, vachement sympa.
Voilà, c'est ça.
Justement, parce que je vais parler de Disney et de cinéma. Ouais, je vais parler de la Reine des Neiges. Voilà, la comédienne Kat McKinnon a joué Elsa, la Reine des Neiges, dans un steak de Saturday Night Live, samedi 1er février. Le numéro a été conçu comme un extrait de la prochaine édition DVD de La Reine des Neiges 2, dans laquelle se trouvent des chaînes coupées à l'image du film d'origine. La scène s'ouvre sur Elsa, perdue dans une forêt enchantée, tout en appelant les noms des autres personnages. Elsa laisse glisser un « Je suis gay ». En s'adressant à sa sœur Anna, Elsa dit « Je ne sais pas si nous nous dirigeons vers le nord, le sud, gay ou l'ouest. » Quand Anna demande « Tu viens de dire gay ?» Elsa répond « Non, je ne suis rien de tout ça. » Vous viviez un mariage hétérosexuel épanouissant à l'âge de 18 ans et je viens de passer deux films entiers à jouer avec la neige. Les deux sont égaux et bons. Et puis, dans Frozen 3, je peux juste congeler des œufs. Dans le sketch, Elsa et Anna, jouées par Cecily Strong, parodisent la chanson désormais emblématique « Let it go ».
Et donc, tu vas nous la chanter, Mohamed.
Voilà. Libéré, délivré. Je vais laisser la tâche à Anne, c'est forcément.
C'est plus dans mon registre vocal.
Voilà. Et devenu aujourd'hui, oui, Al Know, on le sait tous. On le sait tous, on le sait tous, on le sait depuis que tu étais une ado, chante Anna. Je me fiche de ce que Disney, la tempête Twitter fait rage. Le manque d'intérêt romantique ne me dérange pas du tout, de toutes les façons. Donc c'était juste cette parenthèse que je voulais rajouter.
Donc voilà. En fait, tu es en train de nous annoncer que la Reine des Neiges a fait son coming out.
Ah oui, justement.
D'accord. Bon, écoute, c'est une...
J'irai voir le 2.
C'est une bonne nouvelle.
C'est une grande nouveauté. Alors maintenant, eh ben, je vais chroniquer. Pour ma part, je vais chroniquer. Je vous parler d'homophobie au travail.
D'accord.
Enfin, d'une étude, plus exactement. Alors, c'est un tabou pour les uns, un non-sujet pour les autres. L'orientation sexuelle d'un salarié constitue pourtant une source de rejet au travail. Selon un sondage réalisé par l'IFOP pour l'Autre Cercle, une association qui œuvre pour l'inclusion professionnelle des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, pas moins de 10% d'entre elles font état d'agressions physiques ou sexuelles à leur encontre au travail. Au total, un sondé sur quatre dit avoir été victime d'au moins une agression verbale ou physique dans son entreprise ou son administration. Les résultats de l'enquête montrent que le problème est réel, déclare Alain Gavant, vice-président de la Fédération nationale de l'Autre Cercle, chargé de ce baromètre. Cela prouve aussi que l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne peuvent être cantonnées à la sphère privée. Les agressions verbales sont les plus fréquentes. Moqueries, insultes, mises à l'écart s'avèrent des discriminations les plus subies par les personnes interrogées dans le cadre de cette enquête d'une ampleur inédite, réalisée par questionnaire auto-administré en ligne auprès de 1229 personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres qui sont extraites d'un échantillon de 13 346 personnes représentatives de la population métropolitaine âgée de 18 ans. Et plus. Une première enquête a eu lieu du 12 au 24 avril 2019 et une seconde en novembre, du 4 au 30 novembre dernier. L'étude montre aussi le poids de la discrimination fondée sur l'apparence. Les hommes, qui se décrivent comme d'apparence féminine, et les femmes androgynes sont les plus nombreux à se dire victimes des moqueries, 41 et 42% respectivement. Les facteurs discriminatoires se cumulent chez les salariés LGBT non blancs, qui sont 34% à se déclarer victimes de pareilles attaques, contre 18% chez les autres. Les salariés musulmans sont davantage touchés, 40%, que les catholiques, 19%, ou que ceux qui se déclarent sans religion, 16%. Les femmes sont aussi plus nombreuses à subir des moqueries, 23% contre 17% pour les hommes. Les gens qui appartiennent à plusieurs groupes minoritaires subissent la double peine, commente Alain Gavant, qui souligne également le poids de la religion. On l'a vu par exemple lors des manifestations contre le mariage pour tous, décidément. L'homophobie a aussi des conséquences sur l'évolution professionnelle des salariés. Près d'une personne LGBT sur 6 interrogées déclare avoir subi au moins une discrimination de la part de sa direction, que ce soit au niveau de sa carrière, des missions confiées, du recrutement ou encore en matière de rémunération. Plus largement, l'étude révèle la banalisation des expressions homophobes, enculés, pédés ou gouines, qui sont des insultes que plus de 4 actifs sur 10 déclarent entendre au travail. Tous les salariés...
Quand tu parles d'actifs, oui, là c'est la notion dans le monde du travail.
Dans le monde du travail.
D'accord. Bah écoute, tu tends une perche.
Mais tu as raison de ne pas rester passif. Alors, tous les salariés ne voient pas l'emploi de ces expressions comme un problème, regrette Maya Agir. FGG, déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité, la FMD, car elle existe. Si elles peuvent paraître anodines, ces petites phrases n'incitent pas les salariés LGBT à se sentir libres de dévoiler leur situation, bien que 84% des employés des organisations signataires de la charte de l'autre cercle, je vous en parlerai une autre fois, déclarent être à l'aise face à l'éventuel coming out d'un collaborateur. 74% de leurs collègues en couple avec une personne de même sexe ont déjà omis volontairement d'évoquer le sujet au travail. 46% ont renoncé à un événement d'entreprise où les conjoints étaient invités. C'est
super.
Énorme. Cette auto-censure peut même avoir des conséquences sur leur protection sociale, puisque 28% renoncent à indiquer le nom de leur conjoint sur leur mutuelle. L'accès à certains avantages sociaux, comme les congés parentaux pour les salariés LGBT, reste souvent flou, ajoute Maya. Les situations conflictuelles ne se limitent pas aux agressions verbales ou physiques. Parmi les problèmes qu'ils ont remontés, la déléguée générale de l'AFMD relève l'utilisation des espaces d'intimité. Un hétéro qui ne veut pas partager les toilettes ou des vestiaires avec une personne transsexuelle, par exemple. Et il y a encore des chiffres et des chiffres et des chiffres dans ce sens. C'est assez impressionnant. On en reparlera parce que c'est une étude qui a vraiment été extrêmement, extrêmement complète.
Oui, et puis c'est vrai qu'on peut parler du monde du travail un peu plus dans le détail. Et ce que tu disais là, me faisait penser à un truc. Quand j'étais jeune travailleur, je remarquais que quand des collègues m'invitaient à dîner, donc forcément j'y allais avec mon compagnon, par contre il n'y avait jamais d'autres collègues alors qu'il arrivait, ou d'autres amis, alors qu'il pouvait se retrouver à plusieurs amis, mais quand nous on avait la chance d'avoir une invitation, du coup on était invité juste seul, quoi.
Ah oui.
Donc on comprenait bien qu'il y avait un problème, quoi, hein, qu'il y avait une espèce de, comme on dit aujourd'hui, une gênance.
Voilà, c'est ça. Qui était gêné, celui qui invitait ou les autres qui ne voulaient pas venir ou...
Voilà, ou alors
c'est
est-ce
ça qui est terrible, c'est qu'on ne sait pas à quel niveau se situe.
Exactement.
Le
on ne sait pas si ce sont les gens qui vous invitent qui ont peur d'imposer ça à leurs amis, qui ont peur de l'assumer.
Ou qui ont peur d'imposer à vous le fait que leurs amis disent des bêtises. Parce
peut-être
que
aussi, oui, tu as raison.
On ne sait jamais... Ce qui motive les gens. Vraisemblablement, ils t'invitent, donc ça va.
Oui, ils sont heureux de te recevoir, mais par contre,
mais
tu
par
sens
contre,
bien
le
que...
Mais mélange des gens.
Ouais. Alors, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui, hein, vraiment, mais ça doit exister encore.
Oh, sûrement. Alors là...
Et puis par rapport aux insultes homophobes, juste préciser, parce que là on parlait du monde du travail, mais à l'occasion de toutes les manifestations, on va dire les manifestations hebdomadaires, que l'on peut soutenir ou pas, peu importe, on peut remarquer quand même la banalisation de toutes les insultes homophobes. C'est récurrent dans les slogans et c'est quand même à déplorer, vraiment.
Oui,
y en a un peu marre d'entendre tous ces slogans systématiquement homophobes. Alors que les gens qui manifestent ont sans doute énormément d'arguments, mais ce ne sont pas ces arguments qu'on entend.
Et comme le fait remarquer cette étude, on a tous été, je pense, confrontés à ça dans nos métiers, enfin pas dans nos métiers, mais dans nos entreprises. Moi, j'ai entendu parler abondamment de football. Eh bien, j'ai dit très gentiment à mes collègues, hey, les gars, ça, c'est pas un mot, en fait. Dites qu'ils jouent pas bien au foot, ça suffit. En fait.
Oui, absolument. Oui.
Et ils ont tous dit ah ouais, pardon, excuse-nous, mais ils s'en rendent pas compte, quoi. Mais maintenant, ils sont, c'est moi, je les admire, hein, parce qu'ils sont, je crois qu'ils font plus attention, en fait. Ils le disent juste plus. Enculé, pédé, machin. Ils le disent plus parce que c'est plus dans leur sphère. Donc on peut tous y travailler gentiment. Alors la semaine prochaine de 20h à 21h ce sera Tonics Live et le jeudi suivant Quasar on the Air sera de retour. Et puis n'oublions pas une chose importante, les permanences et les conviviales et tout ça. Vous connaissez Quasar, vous voulez savoir comment que c'est bien quand on est dedans, et ben venez. L'association Quasar est 15 rue de Jérusalem à Angers. Le téléphone est le 02 41 88 87 49. L'accueil aux permanences tous les samedis de l'année, sauf celui de la Pride, qui aura lieu le 16 mai prochain, au cas où je ne vous l'aurais pas déjà dit.
16 mai prochain, c'est noté.
Merci Arnaud. De 17h à 19h. Et sur rendez-vous, si vous le souhaitez, vous passez un coup de fil, quelqu'un vous répond ou vous laissez un message, n'hésitez pas. La conviviale, c'est... Oh, C'est pas demain soir, la conviviale?
C'est demain non, soir, c'est quand? C'est le 17.
C'est le 17, la conviviale. Alors, c'est le 17, la conviviale. Donc, vous venez à partir de 20h30, vous apportez du manger, un peu de boire, de la bonne humeur. Vous pouvez même apporter vos problèmes, on est là pour les écouter. Mais on est aussi là pour chanter. Hein, soyons sérieux, on est là pour faire la fête.
Absolument.
Et puis, un petit peu se détendre entre nous. Et puis, voilà. Là, eh ben écoutez, il me reste maintenant 30 secondes pour vous dire qu'on va vous laisser avec Thierry et son émission S.O.B. Sons of the Blues. Tu vois que je l'écoute, hein. Le blues mondial dans tous ses états. Je vous dis bye bye, à dans deux semaines. Salut Arnaud, salut
bonsoir,
Mohamed.
Bonsoir à toutes et tous, bonsoir Anne, bonsoir Mohamed.
Bonsoir.
Avant l'heure. Oh, c'est incroyable.